On a 12 leçons, 12 semaines pour faire Colossiens. Il y a 4 chapitres, majoritairement, on consulte le commentaire, et celui de John MacArthur sur Colossiens. Cependant, j'ai beaucoup aimé un commentaire qui a été écrit en 1987, Daniel Furter, même s'il a un nom Furter, ça doit être un nom allemand, parce que il a écrit ça comme thèse, l'Institut biblique de Nogent. Très intéressant, comme beaucoup de commentaires d'Européens, un peu compliqués. Comme on dit, ils tournent autour du pot, mais quand même, c'est intéressant. Sur tout le bouquin de commentaires de Colossiens et Philémon, c'est l'introduction. Alors, quand moi je consulte un commentaire, je ne consulte pas une introduction. On consulte le commentaire. Donc, on commence là. Et tandis que John MacArthur, qui lui donne aussi une introduction, voilà l'introduction. On ne fait qu'une semaine sur l'introduction. Lui, de la manière que c'est divisé, il en aurait fait 3. De la manière que Furter est divisé. Donc, je voulais juste vous dire que John MacArthur est intéressant. On va lire quelques passages ce matin. Il est intéressant, il est concis, il est précis, OK? Il est doctrinal au bout et il est très étroit. Alors, qu'est-ce que je veux dire par étroit? Ce que je veux dire par étroit, c'est que il ne se permet aucun libéralisme. Donc, il garde la doctrine droite. Et je vais vous donner un exemple tout à l'heure. C'est seulement 4 chapitres. OK? Prenez le temps de lire. Idéalement, je vous recommande de le lire d'un bout. Donc, tout dépendant comment vous lisez, 20, 30 minutes, parce que vous avez un suivi. Première leçon de Colossiens. Ce matin, on va faire un peu d'introduction. On parle de la localisation, on parle de Colosse. Colosse est dans la région de la Phrygie. Alors, vous avez des cartes au bout de vos Bibles. Vous allez trouver une carte des voyages de Paul. OK, vous allez être capable de voir Laodicée. Il y a 2 villes que vous devez chercher, Laodicée et Éphèse. Colosse est à côté de cela, sauf que Colosse ne fait pas partie des voyages de Paul. Donc, vous ne verrez pas les lignes qui suivent là où Paul passe à Colosse. Il ne passe pas à Colosse. On va voir un peu plus tard pourquoi. Donc, c'est dans ce coin-là. C'est même à côté de les 3 villes qui fonctionnaient ensemble, c'est Laodicée, Hiérapolis et Colosse. Donc, c'est dans ce coin-là, juste pour vous situer sur une carte de géographie. Si vous ne l'avez pas trouvé, ce n'est pas la fin du monde non plus. La raison est très simple, Colosse n'existe plus aujourd'hui. Donc, c'est dans la région de la Phrygie, dans la province romaine de l'Asie, dans une partie qui est aujourd'hui la Turquie. Donc, si on allait en Colosse, on serait dans une partie de la Turquie. C'est dans la vallée du Lycus, OK? C'est une vallée, Lycus, qui a quelques kilomètres de large, dans laquelle passe la rivière qui s'appelle Lycus. Alors, c'est une triade et on peut voir Colosse, Laodicée, Hiérapolis. Hérodote la décrivait comme une ville, une cité riche, vaste, populeuse, une grande ville de Phrygie. Voilà ce que Colosse a été. C'est une route importante par laquelle passait tout le commerce. Et c'est ça qui a fait développer Colosse, et c'est ça qui a détruit Colosse aussi, quand la route a changé de place et qu'elle est passée par son voisin, Laodicée. Et là, on parle de 5, 6, 7 kilomètres à peu près, OK, là, de différence. Donc, quand la route passait par Colosse, les commerçants passaient par Colosse, et quand il y a des commerçants, ça prend des clients. Et donc, les clients passaient par là. Mais quand la route est déplacée et que les clients passent plus, il n'y a plus de commerçants non plus, et il n'y a plus de marchandises, et la ville dépérit. Je vous donne une petite illustration. Dans les années 60, quelle était la métropole du Canada? Montréal. Aujourd'hui, quelle est la métropole du Canada? Toronto. Qu'est-ce qui est arrivé? Les sièges sociaux, le commerce s'est déplacé de Montréal vers Toronto. Le business s'est déplacé de Montréal vers Toronto. Et maintenant, on n'a même plus une bourse à Montréal. Tout est à Toronto. OK? Pourquoi l'aéroport Mirabel a fait patate? Une des raisons, c'est que quand on a planifié cela, OK, quand M. Trudeau avait planifié cela, Montréal était en plein essor. Mais Montréal a fait ça commercialement parlant. Et aujourd'hui, il n'y a plus la moitié des avions commerciaux qu'il y avait dans les années 60. Et on est en 2015. Hein? Comprenez-vous? Et c'est la même chose qui est arrivée en gros à Colosse. Et c'est pour ça que Colosse, aujourd'hui, mais pourquoi elle n'existe plus, on va vous le dire un peu plus loin. OK, donc là, elle passe par Laodicée. Laodicée prend de l'essor et Colosse perd de l'importance. À l'époque de Paul, quand l'Épître aux Colossiens est écrite, c'est une petite ville qui est éclipsée par ses voisins prospères, Laodicée et Hierapolis. Et on peut voir ça dans Colossiens chapitre 4, versets 13 et 16, mais on n'y ira pas. Je vous laisse la référence. Alors, c'est une ville qui fut prospère à cause de sa route commerciale, à cause de son commerce réputé pour la laine et surtout pour la teinture des laines, à cause des couleurs qu'ils avaient, des ocres et des terres qu'ils avaient dans ce coin-là. Ils avaient donc de bons pâturages aussi pour élever des moutons. Et à cause de tout cela, même il y avait une laine qui portait le nom de Colosse. Donc c'était important, donc un gros commerce à cause de cela. Quand on a un gros commerce dans quelque chose, ça amène d'autres commerces aussi. Et finalement, la croissance va grandissante comme ça. Du temps de Paul, c'est une ville en déclin. En 60 avant Jésus-Christ, Colosse, Laodicée et Hierapolis sont détruits par un tremblement de terre, mais rapidement reconstruits, mais Colosse, pas avec la gloire d'avant. Elle est reconstruite, mais pas avec la gloire d'avant. Au 8e siècle après Jésus-Christ de notre ère, en grande partie, Colosse est abandonnée. Un peu comme quelle ville que nous connaissons en Amérique qui est abandonnée? La ville de Détroit. Détroit, qui était une énorme ville à cause du commerce de l'auto, qui aujourd'hui n'est plus le tiers des habitants qu'elle avait auparavant. C'est une ville fantôme, Détroit. Ils sont en train de tout faire pour reconstruire Détroit. Pas pour reconstruire, mais pour réhabiter Détroit. Mais il y a des quartiers complets, des rue complète où il n'y a plus personne qui habite là dans les maisons qui sont là. Ça, c'est Détroit, à cause de la chute du commerce. Un commerce, quand il part, c'est comme une entreprise quand une entreprise est fondée et elle a 3 clients. Ça veut dire une chose, t'es mieux d'avoir 300 petits clients que 3 gros clients. 3 gros clients, t'en perds un. De la misère à te relever, t'en perds deux, oublie ça, t'es fini. C'est aussi simple que ça, c'est la même chose à Détroit. Et c'est la même chose à Colosse. Au 12e siècle, Colosse est détruite. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines de Colosse. Intéressant de voir que M. MacArthur met beaucoup, pas beaucoup, mais il fait un parallèle avec les églises de l'Apocalypse où il y a des avertissements et à Éphèse et à Sardes, comme quoi qu'ils ont abandonné la foi, abandonné leur premier amour, etc. Et qu'aujourd'hui, l'église d'Éphèse n'existe plus et que Colosse, qui est à côté de Sardes, n'existe plus. Il met un parallèle, il dit, est-ce que c'est ça? Il s'implique pas, il dit, je ne sais pas. Mais il fait quand même une note, il le souligne, et c'est intéressant à voir ça. Les Colossiens. Les habitants de la ville de Colosse sont majoritairement païens. Qu'est-ce que ça veut dire, païen? Non-juif. OK? Non-juif. Autrement dit, nous autres, on est tous une gang de païens. Pour les juifs. Non-juif. Intéressant de voir comme quoi que ce mot-là, païen, était employé par les juifs et ils considéraient les non-juifs comme des chiens. Exact ça. Est-ce qu'ils avaient raison de considérer l'étranger, le païen? Non. Pourquoi? Pourquoi? OK, pourquoi c'est des personnes? On est toutes des créatures de Dieu. On est créés à l'image de Dieu. Dieu a enseigné au peuple juif une raison de prendre soin de l'étranger, des non-juifs. Qu'est-ce qu'on voit dans l'Ancien Testament du temps d'Israël? Vous avez été étrangers en Égypte, et afin qu'ils n'oublient pas, il y a une recommandation, une pratique qui est donnée au peuple juif. Laquelle? C'en est une, je n'avais même pas pensé à celle-là. De ne pas récolter l'entièreté des champs, de laisser pour le pauvre juif et l'étranger afin qu'il puisse aller glaner. Mais il y a une autre chose plus près d'eux autres. vous laisse réfléchir. Pourquoi le juif israélite ne devrait pas considérer l'étranger, le païen, comme un chien? OK, on voit. La femme de Moïse est une étrangère. Ruth est une étrangère. Mais une pratique personnelle chez les Juifs, c'est qu'à la table du Juif, il y a toujours une place pour l'étranger. Et quand on voit même d'Égypte, quand les Israélites partent, il n'y a pas que des Juifs qui partent, il y a des Juifs et des étrangers qui ont pris la foi juive en Yahvé, en l'Éternel. Donc, même du temps d'Israël, il y avait des non-juifs qui étaient de religion juive, des non-israélites, vous comprenez? Donc, même dans ce temps-là, la grâce de Dieu était pour les païens aussi. La foi en Dieu était pour les païens. Et souvent, plusieurs fois, on lit que certains païens convertis à l'Éternel, à la foi en l'Éternel, ont été des hommes et des femmes de valeur, comme la femme de Moïse, comme la femme, comme Ruth, la belle-fille de Naomi. Intéressant. Et Ruth est dans la lignée, une grand-mère de qui? De David, de qui? De Jésus, dans la lignée de Jésus. Intéressant de voir ça. Et ce n'est pas une Israélite, c'est une païenne d'un autre peuple. OK, juste une prime. Donc, il y a principalement des païens à Colosse. Il y a aussi une communauté juive assez importante, pour différentes raisons. Antiochus le Grand, 223-187 avant Jésus-Christ, je le connais personnellement, là, a transporté des colons juifs et les a amenés dans ce coin-là, dans la région. Et ils sont là, après des générations. Mais il y a aussi une autre chose qui intéresse les Juifs, le business, le commerce. Donc, il y a d'autres Juifs qui sont venus dans ce coin-là pour le commerce de la laine et d'autres entreprises. D'autres y viennent à cause des termes qu'il y a à Hiérapolis. C'est quoi des termes? C'est ça, ce sont des sources sulfureuses, choses, etc., dans lesquelles on va se saucer, que ça fait du bien. OK, aujourd'hui, on appelle ça des spas, sauf qu'on met du chlore dedans, c'est tout. OK? Donc, les termes, donc il y a des raisons comme ça. Donc, il y a deux grosses communautés, des communautés païennes, différentes religions, et des communautés juives aussi. Donc, Colosse est sous l'influence religieuse, païenne et juive. Alors, il y a un fond de paganisme. Écoutez bien tout cela. Ça nous situe, ça nous aide à comprendre pourquoi Paul dit certaines choses, enseigne certaines choses. Il y a un fond de paganisme. Il y a des cultes divers, grandes routes, voyageurs, ils passent n'importe quoi sur une grande route. Vous avez juste à regarder Montréal, juste à regarder Toronto, on a tout à Montréal, on a tout à Toronto, qu'il n'y a pas à Mont-Laurier, par exemple. OK? Qu'il n'y a pas à Sainte-Agathe et compagnie, dans d'autres petites villes. Donc, des cultes divers. Il y a des rites de mythologie gréco-romaine. Il y a un culte impérial, le culte des mystères, la prégnose. Qu'est-ce que c'est que la gnose? Quel mot qu'on fait avec gnose? Les gnostiques. OK? Eux, ils pensent que tout est dans la connaissance. Le reste, ça n'a pas d'importance. Si on a une tête grosse comme ça, là, ça, c'est numéro un. La connaissance, la gnose, la connaissance. Le judaïsme, l'occultisme. Tournez avec moi dans Actes chapitre 19. Acte 19, verset 1. Ouais, je vais juste passer à travers quelques versets dans chapitre 19. OK, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, comme la Phrygie, par exemple, arriva à Éphèse. Donc, on est dans ce coin-là, là, OK? On nous situe, et là, on continue tout le long après. Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants, OK, essayèrent d'invoquer ceux qui avaient des esprits malins, les exorcistes juifs, ambulants à bord de ça. Verset 19. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent. Les arts magiques. OK, on parle de conversion, là. S'ils brûlent leurs livres, ils se convertissent à Jésus. Mais on voit que c'est des religions qu'il y a dans le coin. Verset 24. un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquant en argent des temples de Diane, OK? Les temples de Diane, la grande déesse. Verset 26. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. L'adoration des idoles. On continue. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, le business. On parle, il y a des juifs dans le coin-là, le business is business. Ils ont peur de perdre leur job. C'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans tout le monde entier ne soit réduite à néant. L'importance du culte à Diane. Verset 28. Ces paroles, les ayant remplies de colère, ils se mirent à crier, « Grande est la Diane des Éphésiens. » Juste pour vous montrer que c'était connu et qu'il y avait tout un culte dans le coin de la Phrygie, dans l'Asie, et tout ce qui touche autour de Colosse, Éphèse, Hiérapolis. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de parallèles, de doctrines que Paul va défendre, et on va les voir au fur et à mesure qu'on avancera dans le livre de Colossiens, qu'on peut retrouver dans Éphèse aussi, et dans Philémon, okay? Parce que Colossiens et Philémon ont été probablement écrits l'un derrière l'autre, ou à peu près en même temps. Alors, d'un point de vue de religion, toute une salade là, de tout ce qui est religieux, et ça favorise les problèmes ou les hérésies qui peuvent attaquer l'Église de Colosse. Est-ce que nous vivons des problèmes similaires dans l'Église de Jésus-Christ à Montréal? Définitivement. Quand on était plus jeune, ma femme et moi, là, quand on était dans la jeunesse, là, il y a eu un gros vent de Krishna, de l'Église de Krishna. Okay? Ça, c'est fin des années 60, début 70. Et l'autre jour, je suis descendu, je m'en allais à l'hôpital Saint-Luc chercher quelqu'un à l'hôpital Saint-Luc. Et il y avait des Krishna sur un coin avec le tambourin, les cheveux rasés, puis une couette en arrière, habillés en rose, puis en orange. T'sais. Toutes les religions sont à Montréal, incluant le culte à Satan. Le satanisme est à Montréal. Le satanisme est dans le monde entier, le culte à Satan. Et même si d'autres religions ne sont pas le culte à Satan, s'ils n'adorent pas Dieu, le Dieu manifesté Père, Fils et Saint-Esprit, comme la parole de Dieu nous l'enseigne, leur culte est à Satan. Alors, allez pas dire que à votre voisin qui est d'une autre religion, qu'il adore Satan, là. C'est pas comme ça qu'on va l'attirer à Jésus-Christ, OK? Mais ne nous trompons pas. Ou on adore Christ, Père, Fils et Saint-Esprit, ou on adore un autre Dieu qui n'a rien à voir avec Dieu. On peut pas mélanger les deux ensemble. On peut pas dire, oui, mais ils sont proches de nous, ils font partie du christianisme. Non. Le christianisme, si on veut employer ce mot-là, là, c'est celui qui croit au Père, au Fils et au Saint-Esprit en une personne avec Christ qui a tout payé sur la croix, complet. On va développer ce sujet-là dans le livre de Colossiens. On va le développer, on va le voir avec le temps. Donc, oui. Plus fort. Ce qu'ils ne t'entendent pas, si je ne t'entends pas, il faut être pas fort.
Il y a certaines églises de Montréal qui croient en Jésus, chrétiennes, OK?
Oui.
Ils croient en Dieu le Père et en Jésus-Christ, mais ils ne croient pas au Saint-Esprit. C'est pour ça que tu mentionnes. Et c'est bon de se rendre compte que ça existe.
Dieu se manifeste en d'une personne, en trois personnes. Ne me demandez pas d'expliquer comment une personne peut être trois personnes et comment trois personnes peuvent être une personne. Mais c'est Dieu, ce n'est pas Dominique Guichard, c'est Dieu. Et Dieu est comme ça. Et même le Saint-Esprit, comme les témoins de Jéhovah enseignent, que le Saint-Esprit n'est pas une personne, mais est une puissance, le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance, il est une personne, il parle, il dirige, il met à part. Écoutez bien, moi, l'électricité chez nous qui est une puissance, elle ne me dirige pas, elle ne me parle pas, à part par la télévision. Elle ne met pas à part. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, l'importance d'avoir une saine doctrine. Et dans le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est de plus en plus important. Tout à l'heure, quand je suis rentré, Mélodie, elle a mis sur le mur, ici, juste en face, tous les cours qui sont donnés. Vous regardez, on enseigne l'épître de Paul aux Colossiens. On enseigne l'épître de Paul à Romains. On enseigne les actes des apôtres. On donne un cours de théologie, un survol. On enseigne quoi à l'église de Rosemont? On enseigne la parole de Dieu. Pas la parole de Richard, pas la parole de Dominique, pas la parole de n'importe qui. La parole de Dieu est uniquement la parole de Dieu. Et quand on comprend pas quelque chose, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, on peut se le faire expliquer, mais moi, si je comprends pas quelque chose, je peux pas vous l'expliquer. Qu'est-ce que je vais dire? C'est ça, Marcel. Je le sais pas. OK? Quand on me demande, parce que même chez les évangéliques, il y a des tiraillages, hein. Si on prend juste le côté eschatologique, le retour de Jésus-Christ, on aimerait se connaître la date et l'heure, hein, pour être prêt. Mais je le sais pas. Puis Jésus a dit lui-même qu'il le savait pas. C'est seulement le Père. C'est dur à comprendre, hein. Le Père sait quelque chose que le Fils ne sait pas, puis ils sont une personne. Alors, je ne sais pas. Dieu est au-dessus de nous. Dieu est Dieu, et nous, on est la créature. Exact. OK, le fondateur de l'Église, maintenant. Intéressant de voir que la fondation de l'Église de Colosse coïncide avec le séjour de plus de 2 ans de Paul à Éphèse, à peu près vers 54-56 de notre ère, OK? On voit ça dans Actes 19, versets 8-10. Vous irez voir plus tard. Actes 19 est vraiment un passage intéressant par rapport à Colosse, Éphèse et cette région-là. Paul a passé 2 ans à Éphèse. Il a réfuté les contradicteurs. Il a établi l'Église. Écoute, il n'était pas juste un prédicateur qui passait. 2 ans, c'est assez longtemps. C'est probablement pendant ce temps-là que l'Église a été fondée à Colosse aussi, mais pas par Paul. Parce qu'on le voit très bien quand on va lire que Paul n'a pas été à Colosse. Et quand il écrit Colossiens, il dit qu'il écrit Colossiens par rapport à un rapport que Épaphras lui a fait. Donc il dit, je ne vous ai pas vu, mais voilà, je vous aime, je prie pour vous, etc. On va voir ça, on va développer ça dans les passages avec les semaines à venir. Mais on ne voit pas Paul aller à Colosse, pour fonder Colosse. Ce que on suppose, OK, c'est que Épaphras et Philémon, tous deux de Colosse, se sont convertis à Éphèse, et probablement qu'Épaphras est celui qui a fondé l'Église à Colosse, étant lui-même de Colosse, et on voit comme quoi qu'il est présenté dans Colossiens, qu'il est le dirigeant. Et là, on va aller dans Colossiens chapitre 1, verset 7. Alors, Colossiens 1, 7. À partir de, dans les versets 3 à 8, c'est un rapport qui est fait, mais verset 7 nous donne un peu plus de détails. D'après, il y a tout un passage, peut-être qu'on peut commencer la phrase complète en milieu du verset 6. Il porte des fruits et va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, etc., etc. Donc, on voit que Épaphras a un rôle important, ben, important, je veux pas qu'il se pète les bretelles, là, mais qu'il a un rôle de leadership dans l'Église de Colosse. Donc, c'est de là que les commentaires disent, et les commentaires s'accordent tous pour dire que c'est probablement Épaphras qui a fondé l'Église de Colosse. Donc, petite parenthèse, qui est le coach d'Épaphras? Paul. Le serviteur en formation s'appelle Épaphras. Son coach s'appelle Paul. Et qui est l'église mère de Colosse? Éphèse. Il n'y a rien d'écrit dans la... Donc, le fait d'avoir une église mère et des églises filles, ça n'a pas commencé avec l'église de Rosemont. Donc, on le voit clairement dans la parole de Dieu. Et Éphèse se reproduit à Colosse. Et on voit qu'il y a un rapport entre les deux églises et que même si Paul n'est plus à Éphèse, il y a encore un rapport entre Épaphras et Paul, même quand Paul est en prison à Rome. Parce que quand il a écrit à Colosse, il était probablement en prison à Rome. On va en parler un peu plus tard de cela. Donc, c'est intéressant de voir tout cela. Prof, OK, on voit Épaphras à sa place, Église fille d'Éphèse. Donc, Paul écrit probablement à une jeune assemblée. Mais jeune assemblée ne veut pas dire une petite assemblée. OK? Combien y a-t-il eu de conversions le jour de la Pentecôte? 3000 hommes. OK? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de femmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de jeunes. OK? Selon les évaluations des commentaires, on lit, l'Église de Jérusalem était déjà à peu près 20 000 personnes, individus. Donc, est-ce que c'est une jeune assemblée, Jérusalem, à ce moment-là? Définitivement, c'est une jeune assemblée. Ils viennent de commencer il y a quelques jours, mais en quelques semaines, il y a des conversions multiples. On a juste à lire Actes chapitre 2, et on voit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, en quelques jours, semaines, l'Église de Jérusalem est devenue une grande Église du point de vue numérique. Mais ça restait une jeune Église. Et ils disent que Colosse est une jeune Église, mais pas nécessairement une petite. Alors, on ne peut pas dire que c'est une grande Église, une petite Église, une moyenne. On ne peut pas dire ça, on ne sait pas. Mais c'est juste pour dire qu'il ne faut pas associer jeune et petit ensemble. Ce n'est pas nécessairement ça. On connaît des gens aussi à Colosse, Épaphras, Philémon, Archippe, Aphias et Onésime. Quelle était la particularité d'Onésime? C'est un esclave. Onésime est un esclave qui a quitté, qui s'est enfui de chez son maître qui s'appelle Philémon. Okay? Si on étudiait Philémon, on verrait ça. Là. Mais il s'est enfui à Rome et la raison pourquoi il s'est enfui à Rome, c'est parce qu'à Rome, il y a beaucoup de monde. Et on se cache plus facilement parmi des milliers de personnes que parmi des centaines de personnes. Et il n'y a pas de comparaison entre la ville de Colosse, en numériquement parlant, et la ville de Rome. Et les esclaves se sauvaient généralement à Rome. Okay? Et c'est là que probablement Onésime a connu Christ par le témoignage de soit des chrétiens autour de Paul, soit de l'Église de Rome, ou Paul lui-même, on ne le sait pas exactement, mais quand Paul le rencontre, il lui dit, tu dois retourner chez ton maître. Et c'est là qu'il écrit à Philémon, le maître. Il dit, n'oublie pas, tu dois l'accueillir comme un frère. Okay? Il est mon frère, mon enfant bien-aimé, qui dit Paul, et il est ton frère. Alors, c'est toute une leçon. Hein? Un propriétaire d'esclave, puis un esclave, il doit l'accueillir comme un frère.
N'oubliez pas, la punition d'un esclave, c'était la mort.
On est coupé à la tête.
C'était
oui,
coupé à la tête. Ça, c'était beau coupé à la tête.
Oui, c'est ça. C'était oui, c'est...
Non. C'était la mort, mais c'était plus douloureux.
C'est ça, oui. Généralement, les esclaves qui se sauvaient du temps de l'esclavage dans le sud des États-Unis, on les jetait dans une casserole bouillante d'huile. On est très ingénieux pour faire souffrir les gens. Juste pour faire un parenthèse entre Philémon, Onésime et tous ces hommes-là. Donc, Philémon et Épaphras étaient des hommes mais de direction dans l'église de Colosse. Alors, l'auteur de Colossiens, chapitre 1, verset 1. Qui va me lire chapitre 1, verset 1?
Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Timothée.
Merci beaucoup. Chapitre 4, Micheline, verset 18.
Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit avec vous.
Alors, selon vous, qui a écrit l'épître de Colossiens? Ouais. Paul. C'est généralement accepté par l'Église depuis les temps apostoliques jusqu'au 18e siècle où on commence à se prendre pour un autre et dire que ce n'est peut-être pas Paul qui a écrit l'épître de Colossiens. Et lui en parle beaucoup. MacArthur, lui, prend ça pour acquis. C'est écrit. OK, je le prends pour acquis. Mais c'est intéressant de voir, et je vais vous donner seulement les titres, les arguments développés pour que ça soit quelqu'un d'autre que Paul. Il parle de la théologie qui diffère très sensiblement de celle que Paul développe dans les autres lettres. Et je vais vous donner les arguments qui sont contre après. Le style et le vocabulaire s'écartent trop de ceux que l'on trouve dans les livres considérés comme authentiques de Paul, comme Éphésiens, etc. La très grande ressemblance qui unit notre épître à celle qui porte l'adresse des chrétiens d'Éphèse et qui entraîne la suspicion sur Colossiens, puisque l'on ne juge pas possible d'admettre que Paul soit l'auteur de la lettre aux Éphésiens. Bon, on peut parler de Romains. Ils ont besoin d'être examinés, ces choses-là. Cependant, le commentaire que M. MacArthur fait, c'est que Paul est âgé, Paul est en prison. Est-ce que vous avez changé, alors je parle à ceux qui ont dépassé 60 ans comme moi, là, est-ce que la manière dont vous écrivez maintenant une lettre, un courriel, un mail, n'importe quoi, a changé depuis que vous avez dépassé 60 ans par rapport à quand vous aviez 20 ans?
Définitivement.
Pourquoi? Pourquoi, Nicole? On a plus de vocabulaire, on a plus
d'expérience de la vie.
On est plus sensible. On a appris en 40 ans, que je prie 20 ans, 60 ans, on a appris que les mots peuvent faire mal, très mal. Donc, on fait attention avec les mots qu'on emploie. Surtout dans un écrit, car l'écrit reste. Une parole, on peut envoyer quelqu'un balader, là. OK, c'est une parole. Avec le temps, on l'oublie. Mais quand on a l'écrit en main, là, garde ce que tu m'as écrit, on a bien la misère à l'oublier et on le garde. Oui, Judith.
C'est pas aussi à qui on s'adresse. On fait de la même façon à tout le monde.
Oui, exact. D'ailleurs, ils font la... Parce que l'Éphésien aussi a été contesté. Mais écoute, les Romains, c'est les Romains quand il écrit aux Romains. Quand il écrit aux Philippiens, c'est aux Philippiens qu'il écrit. Quand il écrit aux Éphésiens, c'est aux Éphésiens. Là, il écrit aux Colossiens, c'est différent, il écrit aux Colossiens. Oui.
Ils ont fait les mêmes accusations contre Ésaïe, en disant que ça ne peut pas être le même qui avait écrit Ésaïe, jusqu'à ce qu'il découvre le fameux rouleau, où c'est que tout Ésaïe d'un seul.
Oui, d'un seul définitivement. C'est... Une chose, par exemple, qui est à retenir, et que et M. Furter et M. MacArthur retiennent, il y a deux personnes qui ont suivi Paul dans presque tous ses voyages. Quels sont-ils? Silas a fait quelques voyages avec lui, mais ben, un voyage après moi. Luc était presque toujours avec Paul. Et le deuxième, c'est Timothée. Timothée, d'ailleurs, il en parle, il dit. Donc, ce que les deux commentaires font, c'est que peut-être que rendu à l'âge qu'il est rendu, Paul, sans oublier qu'il a un problème de santé, Paul, qu'on ne connaît pas. OK, quand il dit comme quoi qu'il a prié trois fois d'enlever l'épine de la chair, mais que Dieu lui a dit
«
Ma grâce te suffit, reste de même. » Bon, on ne développera pas ce point-là. Là. Dieu veut faire de nous ses disciples, ses enfants, qui dépendent 100% de lui, comme Paul. Beaucoup de commentaires disent que probablement il avait des problèmes de vue. OK, on ne sait pas. OK, là, c'est... Le probablement est même un peu fort, tu sais. Parce qu'en réalité, on ne le sait pas, c'est dur à développer. Mais si c'était comme cela, il y a des chances que Paul, au lieu d'écrire, quoi qu'il dit, hein, comme Monique, mais Mimi a dit tout à l'heure, « Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. » OK? Mais on peut supposer que possiblement Luc ou Timothée, ou les deux, soient les secrétaires de Paul, et que Paul dicte. Et je l'ai fait durant l'année passée, on avait une secrétaire au bureau de l'association, et je donnais les grandes lignes à Monique, je dis, écoute Monique, il y a ça, pond la lettre. Envoie-moi la lettre, puis je la signe. Comprenez ce que je veux dire? Bon, je ne dis pas que c'est comme ça que ça a été fait là, mais c'est possible qu'il y a quand même une touche de personnalité, ou de Luc, ou de Timothée. Mais n'oublions pas une chose très importante, et M. MacArthur appuie là-dessus. La parole de Dieu nous dit que... Exact. L'écrivain de Colossiens n'est pas Paul, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est la parole de Dieu. Et M. Furter s'écarte un peu considérant la parole de Paul. Donc, c'est intéressant de voir que c'est la parole de Dieu. Si on commence à dire, oui, mais... Paul a dit, Paul. Oh, ben un instant. Paul n'est pas l'écrivain, il est le véhicule par lequel Dieu a transmis sa parole aux Colossiens. Par l'Église, en général, depuis les temps apostoliques jusqu'au 18e siècle, où il y a une petite contestation, là, Paul est reconnu comme l'écrivain de Colossiens. Et au 19e siècle, c'est la haute critique libérale. Moi, ce que j'aime, c'est haute critique libérale. Hein? Ben, j'aime pas ça, autrement dit. Hein? Donc, faisons attention de ne pas nous écarter par rapport à cela. C'est reconnu généralement que c'est Paul qui a écrit son épître. L'hérésie des Colossiens. Colossiens 1, verset 4 et verset 8.
Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Verset 8. Et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous a mis.
On voit la visite d'Épaphras qui vient faire un rapport à Paul. Et il lui dit tout ce qui se passe et l'informe. J'ai besoin de quelqu'un qui va lire chapitre 2, verset 4.
Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants.
Verset 8, n'importe qui.
Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ.
Verset 16.
Que personne d'autre ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Au sujet d'une fête, d'une nouvelle lutte ou d'un sabbat.
Et je lirai des versets 18 à 23. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé de vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines des hommes. Ils sont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. On voit plusieurs hérésies que Paul fait ressortir. Un danger menace les croyants de Colosse. Et Paul avertit et identifie l'erreur. On va le développer au fur et à mesure qu'on va avancer dans le texte. Intéressant que Paul ne fait pas juste que dire, voilà, tu as la grippe, mais il donne aussi le vaccin contre la grippe en même temps. Il donne l'antidote, OK? Une saine théologie pour contrer l'influence des fausses doctrines. L'épître de Paul aux Colossiens est une lettre préventive. Ça ne veut pas dire que toutes les hérésies qu'on va voir sont dans l'église de Colosse. Mais ils sont à la porte de l'église de Colosse. Un chat échaudé craint même l'eau froide. Un homme averti en vaut deux. C'est toutes des maximes qu'on utilise. C'est la même chose comme chrétien quand on dit « frère, fais attention ». C'est comme les couples qui se fréquentent. Hein? On leur dit « vous fréquentez, la chair est faible ». Vous ne devez pas vous trouver tous les deux, tout seul, chez mademoiselle ou chez monsieur. Parce que la chair est faible. Et Satan sait que ma chair, ta chair est faible. Donc, on avertit. Et même si on avertit souvent, ou si on est averti, on n'écoute pas. OK, on écoute. Mais comme qui dirait, ça passe par là, puis ça ressort de l'autre bord, il n'y a plus rien entre les deux. OK? On n'écoute pas. Parce que nous, on se pense fort, je suis au-dessus de cela. Et c'est là que la parole de Dieu nous dit que celui qui croit se tenir debout, attention, tu vas planter. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça que Paul fait avec l'épître aux Colossiens. Il les avertit, il leur donne, on pourrait dire ça, des avertissements. Quelles sont les fausses doctrines? Et ça, c'est intéressant de voir ce que notre ami M. MacArthur en dit. Et là, je prends, pas mes paroles, mais les siennes. Plusieurs fausses doctrines, OK? Premier, Dieu est bon, mais la matière est mauvaise. Est-ce que c'est vrai, ça, que Dieu est bon, mais la matière est mauvaise? La matière, tout ce qui est « je suis fait de matière, vous êtes fait de matière, ça c'est de la matière », tout ce qui est matière est mauvais. Non! Non! Il y a beaucoup de choses mauvaises dans la matière, mais automatiquement, si Dieu est bon et que la matière est mauvaise, Jésus-Christ, qui est en matière, homme, ne peut pas être Dieu. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez l'importance de cet enseignement-là. Donc, automatiquement, deuxième hérésie, il nie l'humanité de Christ parce que la matière est mauvaise. Si Christ est Dieu, il ne peut pas avoir pris un corps humain parce que la matière est mauvaise. Donc, ou bien Christ n'est pas Dieu, puis il est homme, et c'est mauvais, ou bien il est Dieu, mais ne peut pas être homme parce que être la matière, c'est mauvaise. Vous voyez, vous comprenez la signification de tout ça? Il est très important de voir qu'on ne peut pas nier ni la divinité de Christ, ni l'humanité de Christ. Et si Christ ne s'est pas fait homme, il n'y a pas de salut. Pas plus compliqué que ça. Si Christ est seulement homme, qu'il n'est pas Dieu, pas de salut non plus. Comprenez-vous l'importance de la doctrine? Troisième. L'hérésie colossienne nie aussi la divinité de Christ, étant donné que Dieu, qui est bon, est l'antithèse même de la matière qui est mauvaise, il ne peut absolument se faire homme. C'est ce que je viens de dire là. OK? Ni l'humanité de Christ et ni la divinité de Christ. Et il nie aussi que l'œuvre de Christ est pleinement suffisante pour le salut. Alors ça ne date pas d'hier. Ça, okay, c'est pas d'aujourd'hui. Ça remonte à loin. Est-ce qu'encore aujourd'hui, on nie la toute suffisance du sacrifice de Christ?
Oui.
Oui! Que ce soit dans l'Église catholique, que ce soit dans les témoins de Jéhovah, que ce soit dans l'islam, toutes les religions nient la toute suffisance du sacrifice de Christ. Ça prend toujours quelque chose de plus. Ça prend toujours quelque chose de plus. Et ceux qui ont nié les premiers la toute suffisance de Christ, ce sont
les Juifs.
Ils n'ont pas reconnu la divinité de Jésus-Christ. Ils ont nié tout ça, sauf le Romain qui était au bord. Qu'est-ce qu'il a dit, lui, quand il a vu mourir Jésus-Christ?
Certainement,
cet homme est fils de Dieu. Intéressant de voir que ce n'est pas un Juif qui a dit ça à côté, c'est un Romain. C'est spécial, hein? C'est spécial. Donc, l'œuvre de Christ est pleinement suffisante pour le salut. La circoncision est nécessaire au salut. Et ça, ils ajoutent un paquet après une kyriade de pratiques qu'il faut avoir pour avoir le salut. Est-ce qu'on vit ça encore aujourd'hui?
Oui.
Oui. Même chez certains évangéliques. Attention. Et d'autres préconisent l'ascétisme. Qu'est-ce que c'est que l'ascétisme?
La privation.
Plus privation, ça c'est une partie de l'ascétisme. Plus large, pardon?
La souffrance,
c'est une partie de l'ascétisme. L'ascétisme, c'est que le corps est mauvais, je dois me priver, je dois le faire souffrir pour abaisser le corps afin que l'esprit ressort. Le corps, ça va avec le corps ou la matière qui est mauvaise. Ça se recoupe complètement.
Oui, oui, oui.
Oui, OK. Donc, il y a aussi, quand on devient un ascète, OK, et qu'on se prive, même dans le temps du Moyen Âge, il y en avait qui se flagellaient, il y en avait qui se faisaient souffrir sévèrement, il y en a d'autres, ils montaient, on les appelait les...
Les ermites d'un poteau.
Sur les poteaux, là. Ils montaient un poteau, ils faisaient une plateforme, là, puis ils restaient en haut toute leur vie. Okay? Ils descendaient une petite corbeille, on mettait de la nourriture là-dedans. Il n'y avait pas l'eau courante en haut. Hein? Juste comme ça, ils passaient. Là. Assez qu'ils mouraient. Vous savez comment ils mouraient, ces gens-là? À cause de la vermine qui vivait sur eux, à leur dépens. Ça, c'est de l'ascétisme pour se rapprocher de Dieu. Le poteau, c'est se rapprocher de Dieu. Voyez-vous la stupidité? Est-ce que le corps, c'est mauvais? Non. N'oublions pas que Dieu nous a créés à son image. Le péché est venu ternir l'image. Hein? Ça, c'est comme le... Nous, combien on a d'argenterie à la maison? C'est plus bien à la mode, ça. Moi, j'en ai pas, là. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire de spécial avec l'argenterie, Nicole?
Il faut la frotter.
Oui, pourquoi? Pourquoi?
Parce qu'elle ternit.
Oui, puis si on ne la frotte pas, elle devient de telle couleur?
Noir.
Ouais. Okay. Ben, nous sommes de l'argenterie. Est-ce qu'on est moins argent quand elle brille que quand elle est noire? On est toujours le même argent. Sauf que nous sommes de l'argent noir. Une bonne comparaison. Hein. Donc, le corps n'est pas mauvais en soi. C'est nous qui sommes mauvais à l'intérieur et le péché qui habite en nous qui fait que quoi que on déshonore le corps que Dieu nous a donné. Oui, Adrien.
Il y a un verset, mon frère, il y a un verset même dans la Bible qui les encourage, prenez soin de vos corps, de vos corps.
Non, mais Jésus aussi a dit à un moment donné que ce n'est pas tout qui rentre qui est mauvais, mais tout qui sort qui est mauvais.
Mm-hmm. Ouais, c'est surtout de la bouche, hein? Et c'est de l'abondance du cœur que ce qui sort. Donc, si vous rentrez de la cochonnerie, si nous rentrons, je m'inclus, si nous rentrons de la cochonnerie, il va sortir de la cochonnerie aussi. Hein. Et on le voit très bien en ce moment quand on écoute la politique. Hein. Bon, j'irai pas plus loin. OK, donc c'est un mélange étrange, OK, de philosophie grecque, de légalisme juif. La réponse de Paul est « L'œuvre de Christ est pleinement suffisante » et je vais vous lire directement son petit encadré que j'ai mis en encadré, que j'ai écrit encore dans le livre. Le thème du livre peut se résumer dans les mots de Colossiens 3:11 « Christ est tout et en tous. Il est Dieu. Créateur, chapitre 1, verset 16. Sauveur, chapitre 1, verset 20. Chapitre 2, verset 13-14. Et la tête de l'Église, chapitre 1, verset 18. En écrivant aux Colossiens, Paul désire que nous prenions conscience que Christ est venu afin d'être en tout le premier. Et dans la religion, j'aime pas employer le mot religion, mais dans la religion chrétienne, OK, vu que j'aimerais mieux peut-être, devrais dire dans la relation chrétienne, Christ est tout. Depuis la création du monde, jusqu'à la fin du monde. Nous le lisons, Christ est en tout, partout. Il est la révélation de Dieu lui-même sur terre. Il est la révélation de l'amour que Dieu a pour chacun de nous, en fait qu'il a consenti, pas plus que consenti, il a envoyé, même la Bible dit, il a plu à Dieu d'envoyer son Fils mourir sur la croix. Okay? Et ça, c'est l'amour que Dieu a pour nous et l'amour que Christ a pour nous, parce que lui, il a consenti volontairement à mourir sur cette croix. Donc, l'importance que Christ a dans chacune de nos vies, et c'est le thème du livre de Colossiens. Amen. Amen.